Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre sur Radio Présence. Notre invité est un serial entrepreneur, autrement dit un multi-entrepreneur. Rémi Demersemann est un homme résolument positif, aujourd'hui à la tête d'Oikosystème, un espace collaboratif accueillant des entreprises en recherche de sens. Il va nous parler d'économie positive et c'est aussi, vous allez l'entendre, un homme de presse. Qu'est-ce qui fait courir Rémi Demersemann, chef d'entreprise pluriactif, fondateur d'un réseau de crèches il y a quelques années, créateur aujourd'hui d'un espace collaboratif d'échange, de partage pour les entrepreneurs, mais aussi les salariés et également homme de médias. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors il semblerait que vous semblez en tout cas insatiable. Pourquoi dit-on de vous que vous êtes un serial entrepreneur ?
Parce que j'ai créé une deuxième entreprise après avoir créé et développé une première pendant 10 ans, peut-être.
C'est pour ça.
Oui, probablement.
Et c'est aussi dans votre ADN, c'est ce que votre envie d'entreprendre, votre envie d'aller toujours plus loin et bien ancrée en vous.
C'est ça. C'est-à-dire quand j'étais enfant, on a confondu ça avec le plaisir de la recherche. Et j'ai fait des études centrées autour de la question de la recherche justement. Et en fait, c'est vraiment un goût d'entreprendre, un goût de faire changer les choses et d'être acteur dans ce domaine-là.
D'être acteur, oui, tout à fait. On va y revenir, on va expliquer exactement ce que vous faites aujourd'hui. Alors, commençons par votre histoire, si vous le voulez bien. Vous étiez ingénieur dans l'industrie.
Oui.
Vous avez fait des études d'ingénieur.
C'est ça. C'est-à-dire que le goût de la recherche qui avait été détecté était issu d'un vieux rêve sur l'aventure spatiale. Et je me suis retrouvé à travailler effectivement sur les systèmes spatiaux. C'est là où j'ai compris que le métier d'ingénieur ne correspondait pas forcément à mon aspiration. J'étais plus avec une vocation d'entreprendre que de chercher.
Mmh. C'est pas incompatible toutefois.
Ce qui n'est pas incompatible, c'est une question de rythme de vie.
Oui.
En fait, l'entrepreneuriat est sur un rythme plus trépidant que les parties de recherche fondamentales que j'abordais à l'époque. Et j'ai travaillé, puisque une fois que j'avais été diplômé, il faut être un peu cohérent. Donc je suis allé travailler en tant qu'ingénieur dans l'automobile, dans l'aéronautique et dans le spatial. Et j'ai eu l'opportunité en parallèle de ces activités professionnelles de me lancer sur l'entrepreneuriat pour faire un test. Et puis le test a bien réussi.
L'entrepreneuriat dans quel secteur ? C'était lié à votre famille, à votre cellule familiale ?
C'est ça, c'est-à-dire que je suis joyeux père de 4 enfants. Et quand la première est née, je me suis retrouvé président de l'association qui gérait la crèche où elle était accueillie, à un moment où la création de crèches, et notamment de crèches inter-entreprises, était soutenue par l'État de manière assez forte, et les médias reprenaient ça de manière assez intense. Et donc j'ai voulu profiter de cette opportunité pour tester la possibilité d'en faire mon métier. Et donc j'ai créé ma propre structure, qui a géré progressivement une première, puis deux, puis trois, puis 40 crèches au final. Et sur les 10 ans de l'aventure entrepreneuriale, pendant les 5 premières, je suis resté salarié, ingénieur, avec mon activité à temps plein.
Ouais, ouais.
J'étais vraiment sur une tentative, puisque l'entrepreneuriat, finalement, c'est dans mon ADN, mais c'est pas dans mon héritage, puisque mes parents étaient, eux, à l'éducation nationale, donc j'ai pas baigné dans l'entrepreneuriat étant jeune. Donc j'y suis allé prudemment, c'est-à-dire je suis un entrepreneur prudent.
Donc vous êtes allé doucement, en fait,
c'est ça.
Voilà, pas à pas.
Exactement.
C'est un conseil que vous pourriez donner entre nous, d'aller doucement, ou c'est vraiment propre à votre personnalité, ça dépend du secteur d'activité également.
Non, je pense que c'est assez général pour les entrepreneurs. On a envie de se lancer entièrement à corps perdu. Le conseil que je donnerais, c'est de garder des filets de sécurité, c'est-à-dire de savoir déjà comment on peut rebondir s'il y a une difficulté, parce que l'entrepreneur est quelqu'un qui prend des risques total,
oui,
et qui prend totalement des risques, on va faire une faute de français,
et
des risques complets, et qui a besoin à un moment de rebondir, parce que l'entrepreneur a toujours besoin de rebondir, ou en tout cas d'avoir une possibilité de rebond.
Oui, une porte de sortie.
Le conseil, c'est ça. Moi, la porte de sortie que j'ai prise, je l'ai prise dès la porte d'entrée, puisque finalement, comme je le disais, j'ai créé mon entreprise en parallèle de mon activité professionnelle, donc j'avais le filet de sécurité. Si l'une des deux marchait pas, je pouvais me rabattre sur l'autre.
Vous pouvez toujours repartir de l'autre côté. Alors, on ne fonde pas une crèche par hasard. Vous aviez quand même un contact privilégié avec les enfants, avec les familles.
Ah oui. Déjà, je me suis retrouvé président de cette association qui gérait une crèche, donc j'étais baigné dans le sujet. Mais j'ai toujours aimé le rapport à l'enfance et à la parentalité, même déjà étant à titre personnel, à titre individuel, étant enfant, j'étais et jeune, j'ai commencé par m'impliquer très tôt finalement dans tout ce qui est colonie de vacances, animation de centre aéré, c'était mes activités de l'été. Voilà, et ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé le rapport à l'éducation et à l'éveil de l'enfant. Et bon, j'ai quatre enfants parce que j'ai toujours voulu avoir une grande fratrie. Et c'était assez naturel que je, finalement, rétrospectivement, que je trouve du plaisir de diriger une entreprise dans cette activité où on apporte de la joie pour les parents et pour les enfants.
Et pour les enfants, voilà. Exactement. Alors que vous apportez concrètement sur un plan entrepreneurial cette expérience au sein d'une crèche, parce que vous deviez travailler avec des bénévoles également, oui. avec des salariés.
Il y avait sept salariés.
Le côté management a été enrichissant pour vous, formateur.
Totalement, parce que moi j'avais à l'époque je travaillais dans des grands groupes industriels, donc très normés, et je travaillais en tant que chef de projet, donc j'avais pas de salariés en direct. Oui, je faisais travailler les gens. Il fallait que j'embarque les gens avec moi sur les projets. Et là, je me suis retrouvé le manager de sept personnes, comme ça, du jour au lendemain, dans une TPE. Finalement, sept personnes, il dépendait exclusivement des décisions que je pouvais prendre. Et donc, ça a été très formateur au niveau de la responsabilisation. Et je me suis fait le plus vite possible accompagner pour comprendre mes pratiques, pour comprendre ce qu'elles pourraient être et ce qu'elles étaient réellement. Donc moi, je me suis inscrit au Centre des jeunes dirigeants, l'une des plus anciennes associations de dirigeants d'entreprise, qui a dans son essence même pour objectif d'accompagner les dirigeants d'entreprise à avoir une performance qui soit la plus économique, la meilleure possible, mais qui soit également la plus pensée au niveau social, sociétal et environnemental.
Ouais, voilà. Ouais.
Et donc c'est comme ça que j'ai fait la bascule finalement, en me retrouvant avec conscient de cette responsabilité de la vie de sept salariés, en plus du bien-être de ses enfants et des familles qu'on accueillait, et en allant chercher les solutions pour faire en sorte que mon activité soit la plus réfléchie possible, dans le cadre de cet impact social, sociétal et environnemental qui était finalement très présent en moi. Voilà. Et que j'ai découvert les mots à mettre sur ce que je ressentais via le Centre des jeunes dirigeants.
Alors, ce que vous ressentez, c'est tout simplement être proche des gens qui travaillent avec vous, de votre environnement. C'est le mot humain, est-ce que ça pourrait résumer ?
Ah oui, c'est aujourd'hui, je le résume en disant que je veux travailler à faire en sorte que l'économie soit au service de l'humain et de la vie. Voilà, parce que il y a l'humain, mais il y a aussi la vie qui nous entoure, au-delà de l'humanité. Et c'est vraiment ça, oui. C'est vraiment aujourd'hui, je suis très conscient que c'est ce qui a guidé les 12 dernières années de ma vie et ce qui guide aujourd'hui mon action et mon engagement actuel.
Ouais, on va en parler justement. Donc vous avez décidé, après quelques années, de revendre la part de rêve.
Oui,
ça fonctionnait bien. Vous aviez créé combien de...
On avait créé 40 crèches.
40 dans toute la France.
Dans toute la France, ouais, oui. Il y avait 350 salariés. C'était le sixième acteur français, avec un peu plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis 2 ans, la structure était rentable. Donc on n'avait même pas un défi de rentabilité, c'était important. Simplement, c'était le sixième acteur français et les 5 premiers commençaient à prendre beaucoup de poids par rapport à nous.
Ouais.
Notre rythme de croissance ne pouvait pas être aussi intense que le leur.
Et
d'un point de vue stratégique, l'entreprise risquait à moyen terme d'être en danger. Puisque sur un marché où il y a 6-7 acteurs nationaux, le 6e ou le 7e est souvent mis en difficulté à un moment ou à un autre dans les stratégies des autres. Et donc on a beaucoup discuté avec les 350 salariés, parce que moi j'avais mis en place depuis 4 ans dans l'entreprise la gouvernance partagée. C'est-à-dire que les consultations sur les sujets importants étaient globales. On consultait les 350 personnes. On avait mis en place un dispositif permettant, malgré la distance, d'être en contact les uns avec les autres. Régulièrement, on se voyait tous. On organisait des sessions via Internet pour se découvrir les uns les autres, surtout quand on avait une nouvelle crèche, de nouvelles équipes. Et on avait mis en place un système de consultation et de vote sur les grands sujets. Et donc, quand stratégiquement parlant, il est apparu nécessaire de réfléchir à l'avenir de l'entreprise, notamment parce que mes actionnaires minoritaires devaient partir, ils étaient là pour 5 ans, donc on savait qu'ils allaient partir, j'ai choisi de consulter 350 salariés sur ce qu'on allait faire. Je leur ai proposé de racheter tous ensemble l'entreprise et d'en faire une société coopérative.
Oui, ouais.
Le problème, c'est que les moyens étaient... La société était déjà trop grosse. Et on n'a pas trouvé dans les systèmes financiers français actuels le moyen de soutenir 350 salariés qui sont prêts à mettre 500 à 1000 euros chacun pour racheter la société. Et donc on a décidé ensemble de se rapprocher d'un autre acteur spécialiste du domaine de la petite enfance, qui s'appelle La Maison Bleue, qui était le troisième acteur français à l'époque. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, c'était il y a un an, les choses changent vite. Et donc de faire en sorte que les 40 crèches puissent avoir leur pérennité dans ce groupe-là. Et j'ai discuté longuement avec les dirigeants de la Maison Bleue, mm-hmm, pour garantir que l'état d'esprit dans lequel on l'avait fait et l'enseigne, la part de rêve et l'identité puissent perdurer lors de ce rachat, ce qui est le cas.
Ce qui est le cas aujourd'hui, voilà. Vous avez pris du recul par rapport à ça et vous avez pu suivre le déroulé. C'est pas banal qu'un chef d'entreprise consulte de cette manière tout ses salariés.
Non, mais ça fonctionne parce que d'abord c'est possible, aujourd'hui les outils permettent de le faire, et puis ensuite c'est le meilleur moyen d'avoir des salariés conscients de ce qui se passe dans leur entreprise. Moi j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes et dans des toutes petites sociétés, et j'ai vu les différents rapports humains possibles dans une entreprise, et donc je savais ce que je voulais mettre en place comme rapport humain. Et ça passait forcément par les pédagogies. Il a fallu expliquer à 350 personnes ce que c'est qu'un compte de résultat, quelle était la situation financière de l'entreprise, pour pouvoir leur donner les outils pour pouvoir comprendre les décisions qu'ils allaient prendre. Donc ça a pris 4 ans à le faire. Mais ensuite, ça m'a permis de faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui est possible. Et c'est intéressant pour l'entreprise parce que du coup, j'avais dans la part de rêve des salariés qui étaient éveillés sur ce qui se passait.
Ouais,
et leur engagement, et du coup, leur engagement était, ils pouvaient choisir de ne pas s'engager. Évidemment, et tous ne répondaient pas forcément. Après, chacun est libre de son choix. Mais au moins, leur implication était basée sur la compréhension de ce qui leur arrivait, et ils étaient acteurs de leurs décisions. Même si au final, je tranchais, parce que si jamais il y a un conflit, il faut qu'il y ait un moment, il y a quelqu'un qui tranche.
Oui, bien sûr.
Ça leur permettait de participer et donc d'être conscient que c'était leur entreprise. Mmh. C'était une entreprise, finalement, c'est un groupe humain.
Leur bébé, en fait.
Alors, pour certains, c'était leur bébé parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, mais même ceux qui étaient arrivés récemment pouvaient être acteurs de ce groupe humain. Ils n'étaient pas passifs. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de... Et c'est toujours quelque chose de fondamental. Je pense que les entreprises sont plus performantes à partir du moment où on considère l'ensemble des acteurs comme réellement des acteurs, et donc y compris les salariés.
On va en reparler dans un instant avec la création d'Ecosystème, mais c'était important de revenir justement sur la jeunesse de votre activité et sur ce qui fait votre force aujourd'hui, vos atouts et votre ADN d'entrepreneur. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et seconde partie de l'émission avec Rémi Demersemann. Alors Rémi, Ecosystème, c'est votre dernière création. Qu'est-ce qu'Ecosystème ? Un espace d'échange collaboratif, de partage ?
Alors l'espace est la manifestation physique de la démarche globale. C'est une démarche plus globale autour d'une fondation, la fondation Ecos, que j'ai créée lorsque j'ai vendu la part de rêve. La fondation a la vocation à faire en sorte qu'un maximum de personnes découvrent ou agissent dans le cadre de la performance globale des entreprises. C'est-à-dire l'idée, c'est de donner les moyens de faire en sorte que l'économie se mette au service de l'homme et de la vie, en touchant chaque personne. Je suis parti du principe que je ne réussirais pas, même si je le voulais, à tout changer d'un coup, moi-même. Par contre, je peux convaincre de plus en plus de monde de changer un petit peu quelque chose dans leur activité professionnelle. Et si ce petit peu, il est pensé pour avoir un impact social, sociétal ou environnemental positif, ben la somme de tous ces petits peu fera quelque chose qui sera un changement commençant à être intéressant. Et donc, partant de ce principe-là, on a créé la fondation qui a vocation à définir les changements qui sont possibles, que chacun peut faire, démontrer que ces changements-là sont bénéfiques, y compris pour l'entreprise, puisqu'on parle d'entreprise, donc on pourrait dire oui, mais on va dégrader le chiffre d'affaires ou la rentabilité. Non, au contraire, c'est l'entreprise qui s'engage là-dedans, gagne plus d'argent et sont plus pérennes. Et ensuite, faire savoir. Et faire savoir que ça existe, on a réfléchi, j'ai réfléchi avec des amis, avec un certain nombre de personnes sur comment faire. Faire savoir, il y a différentes manières de le faire, donc Internet en fait partie, la presse peut en faire partie, mais à un moment au niveau économique, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un lieu qui symbolise ça, et un lieu où un maximum de personnes auraient des raisons de passer. Et donc, on s'est mis en recherche.
Donc, ce n'est pas uniquement un lieu. Concept, on est bien d'accord, c'est un espace
qui incarne le concept et qui permet à tous les acteurs de pouvoir, à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle, y passer pour une bonne raison. Et pas une raison liée à la fondation, mais une raison liée à leur activité.
D'accord.
Et donc, c'est un lieu dans lequel vous trouvez, ça fait 3000 m². On a repris l'ancien garage, Renault-Saint-Aubin, en hypercentre-ville à Toulouse, qu'on réhabilite entièrement. Dedans, vous trouvez 300 m² de coworking, où vous avez des gens qui sont des indépendants, des télétravailleurs, des gens qui ont besoin d'une salle de réunion, qui viennent travailler chez nous entre une heure et un mois, c'est comme ils le souhaitent, qui trouvent un endroit agréable avec tout ce dont ils ont besoin pour avoir un travail efficace, avec l'accès à Internet par fibre, il y a de la restauration sur place, il y a des ateliers, il y a tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc il y a cet espace de coworking. Vous trouverez, puisqu'on est en phase de travaux là-dessus, un espace événementiel de 600 m².
Donc on peut louer la salle si on est
pour faire des conférences, exactement. La fondation fera des conférences et les entreprises peuvent faire des conférences, et c'est là où on va toucher les gens. C'est-à-dire qu'imaginons qu'Airbus fasse une conférence dans notre lieu, les gens viennent pas parce que la fondation fait quelque chose, mais parce que leur entreprise organise. Et là, nous, on les rencontre. Et donc, on a l'occasion de leur passer le message de la fondation. Et vous trouvez ensuite le journal toulousain qui installe ses bureaux, une école de journalisme qui installe ses bureaux et ses studios, donc télé, radio et photo. Et ensuite, un ensemble de bureaux à louer qui va permettre d'avoir un écosystème d'entreprises convaincues et actrices dans leur performance globale, donc sociale, sociétale et ou environnementale, installée à demeure sur place.
D'accord, Jean-Marie Fernbach, bonjour. Un de nos référents éthiques, c'est Radio Présence. On parle beaucoup de responsabilité, de RSE, depuis le début de cette émission. Première question à notre invité.
Bonjour Doris. Oui, une première question, c'est le titre. Le mot oikos m'a un peu soulever des questionnements personnels. Et pourquoi avez-vous choisi ce titre? J'imagine qu'il y a un sens très fort derrière le mot oikos pour votre désignation.
Il y a effectivement un sens très fort. Déjà, je précise que c'est un mot qui est compliqué pour le grand public puisque les gens ne le connaissent pas. Et on a pris le risque de choisir ce mot-là parce qu'il a du sens et je vais revenir dessus très vite. Mais en se disant que le sens fait qu'une fois qu'on a expliqué le mot, les gens ne l'oublient plus. Et donc c'était intéressant d'aller dans cette direction-là, de dire, on va justement ne pas prendre un mot valise bateau, mais on va prendre un mot symbole fort que les gens vont retenir ensuite. Et du coup, on va prendre le temps de leur expliquer ce qui explique, ce qui nous permet de leur expliquer l'activité de la Fondation. Alors oikos, c'est un mot grec ancien qui veut dire la maison, l'endroit où nous vivons, par extension notre humanité, notre ensemble. Et quand on veut mettre l'économie au service de l'humain et de la vie, on veut mettre l'économie au service de notre oikos, finalement. Et moi, c'est un mot que j'ai rencontré la première fois en 2011, quand j'étais membre du Centre des jeunes dirigeants. J'ai eu la chance de participer à la rédaction du livre blanc pour les candidats présidentiels de 2012. Et le livre, qui contient beaucoup de propositions pour améliorer et mettre l'économie au service de l'humain et de la vie, s'appelait Objectif Oikos. Et donc c'était très cohérent pour moi, dans ma démarche, de poursuivre et de m'engager en prenant ce mot oikosystème pour mettre en avant le sens de la démarche.
Comment vous arrivez à financer ce lieu aujourd'hui? Est-ce que vous avez lancé il y a quelques mois?
Début septembre, on a ouvert il y a deux mois.
Voilà, ouais. Bon. Rentable, c'est trop tôt pour le dire.
Il ne l'est pas, il ne peut pas l'être avant au moins un an, puisque sur les 3000 m², pour l'instant, on a aménagé 600 m². Le reste, ce sont des frais. Donc l'investissement, il est sur l'achat, les travaux et la période pendant un an, pendant laquelle le lieu n'est pas occupé à plein. Et c'est moi qui ai apporté tout le financement. Puisque une fois que j'ai vendu mon entreprise, j'avais le choix de ce que j'allais faire, de ce que j'avais gagné. Et pour moi, c'était très très clair.
Vous pouviez partir en vacances.
Je pouvais partir en vacances éternelles. C'était mais ça me correspond tellement peu que c'était totalement inenvisageable. Et donc j'ai tout réinvesti dans l'écosystème en disant je vais investir dans quelque chose qui me parle et qui va me plaire pour les 40 ou 50 ans à venir dans mon action dans mon activité, qui va être mon engagement. Voilà. Et donc je l'ai investi dans la fondation et dans Oikos Développement.
Une question.
Oui, est-ce qu'on peut dire quelque chose de qui sont vos clients aujourd'hui dans l'écosystème? Vous avez donc déjà une activité depuis septembre, vous avez déjà commencé à avoir des personnes qui viennent travailler chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette clientèle? Qu'est-ce qui lui fait son originalité? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir chez vous? Comment vous le ressentez-vous?
Les 600 m² sont déjà pleins. On va dire, on a de la demande au-delà de notre offre, et donc on est en permanence en train d'aménager les espaces supplémentaires pour pouvoir accueillir plus de monde. Dans la clientèle, c'est extrêmement varié, et c'est vraiment ce qu'on voulait, et c'est parfait. C'est-à-dire que vous avez les gens de passage qui sont dans le quartier, qui voient un espace qui leur plaît, qui s'installent chez nous, et du coup, ce sont des gens à qui on peut dire les choses, à qui on peut expliquer pourquoi on est là. Et donc chez qui on va éveiller une curiosité. Après, s'ils veulent creuser, libre à eux, on pourra les faire creuser. Et vous avez donc quelqu'un qui travaille de chez lui et qui vient chez nous un jour par semaine, parce que chez lui c'est bien, mais socialement parlant, il manque quelque chose. Voilà. Donc ça. Il vient chez nous parce qu'il travaille comme ça. Vous avez un cabinet d'archi qui s'est installé chez nous. Parce que ça leur plaît, ils se sentent bien et ça leur parle, ce qu'on défend leur parle complètement, et donc ils sont installés chez nous. Et puis vous avez dans les locations d'espace, vous avez des grandes sociétés, vous avez TBS qui est l'école de commerce qui nous a loué l'espace pour pouvoir faire un événement, vous avez des sociétés comme La Poste qui envisage de venir de temps en temps utiliser la salle, et en bureau vous avez des sociétés comme donc qui sont des start-up, des jeunes pousses, qui s'appellent Hubware et Efficienza, par exemple, qui sont des structures engagées dans la société actuelle, qui sont installées chez nous, donc à demeure, hein, je ne sais pas combien de temps ils vont rester, mais parce qu'ils y trouvent un écosystème qui leur parle, et parce qu'eux-mêmes correspondent à l'écosystème qu'on porte. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a plus de monde que d'offres, et donc ça nous permet de choisir les personnes qui vont s'installer. Je ne parle pas sur le coworking, où là, on s'organise pour faire en sorte d'accueillir tout le monde, puisque la destination, c'est toucher le grand public.
C'est ça.
Par contre, les gens qui s'installent à la demeure, on les sélectionne. Ouais. Ah oui, il y a la demande. Vous passez, le local est régulièrement plein. Alors, il n'est pas tout le temps plein, mais il est régulièrement plein. Et pour nous, c'est une grande réussite.
Oui, déjà, ça, c'est un premier point. Vous faites autre chose aussi, Rémi. On va en parler avec Jean-Marie. Vous êtes un homme de presse, un homme de médias. C'est vous qui êtes le directeur de la publication du journal toulousain. Alors, pourquoi un journal ?
Alors, ça a été un peu le hasard. En 2014, quand le journal a été en difficulté, les salariés journalistes, certains salariés, pas les 19, mais une partie des salariés journalistes ont voulu le reprendre et ne savaient pas comment faire.
Vous aviez déjà des liens avec le journal à ce moment-là?
J'avais pas de lien du tout avec le journal, à part le fait qu'il m'avait interviewé.
Oui, j'avais vous connaissiez rencontré, simplement. D'accord.
Voilà, ce sont des gens adorables avec qui j'avais lié connaissance, mais uniquement comme ça. Et donc, moi, je leur ai proposé mes services en disant si vous avez besoin. Au départ, c'était si vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive à vous en tant que salarié dans une société mise en liquidation, je peux vous décrypter ce qui vous arrive, en disant toujours si quelqu'un d'autre est plus à même de le faire, je me retire, il n'y a aucun problème, je ne veux pas m'imposer, mais si vous avez besoin, je suis là. Et donc ils ont été intéressés, et effectivement personne d'autre à part Christophe Legvac qui est toujours membre de la SCOP, personne d'autre ne s'est proposé, et donc du coup on a cheminé ensemble pour d'abord comprendre ce qui leur arrivait, et puis ensuite quand ils ont eu envie de reprendre la structure en société coopérative, moi je leur ai dit je vous accompagne, il n'y a pas de problème, je vous conseille, je veux bien être membre de la SCOP, parce qu'ils m'ont demandé d'être membre de la SCOP, donc j'ai accepté. Je me suis retrouvé co-gérant de la société coopérative avec un rôle consultatif. Et puis, depuis cet été, il y a eu un changement à l'intérieur de la rédaction. Certains journalistes sont partis et il s'est avéré assez évident que je devienne directeur de la publication, puisque moi, je leur ai expliqué que j'étais en mesure de soutenir financièrement le journal s'il en avait besoin, parce qu'il n'en avait pas besoin précédemment. Et donc cet été, il y a eu un besoin. J'ai dit, je veux bien soutenir financièrement le journal, mais à partir du moment où le journal, il prend une orientation média de solution. Jusqu'à présent, le journal était un journal d'information assez généraliste avec une orientation politique et qui, au niveau de la rédaction, aimait bien faire le buzz. On sortait des choses un peu gênantes pour un homme politique qui répondait et ça faisait un peu le lectorat. Moi, j'ai dit ça m'intéresse pas.
C'est pas ce que vous vouliez.
Donc je veux bien m'impliquer.
Vous êtes directeur de la
autrement.
Publication, c'est vous qui décidez
c'est
de la
ça.
Ligne éditoriale.
C'est ça. Alors, donc ce que j'ai demandé, c'est que le journal devienne un média de solution. Je dis à la rédaction, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, il faut que ce soit un média de solution. Il faut que les gens aient envie de le lire en se disant il va nous apporter une bonne nouvelle, il va nous apporter du positif sur quelque chose de très concret, un sujet qui nous impacte, et en nous donnant des solutions sur comment nous, de la même manière que l'écosystème, comment nous, lecteurs, on peut changer un petit peu nos pratiques pour participer à cette bonne perspective. Voilà ce que le journal toulousain fait maintenant.
Jean-Marie, notre question.
Oui, alors je vais revenir aux hommes. Dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de écosystème, mais dans le cas du journal, vous avez affaire à des personnes qui travaillent avec vous. Comment s'est fait ce choix des personnes vers vous ou par vous de ces personnes? Je sens qu'au niveau du journal, par exemple, bon, le changement d'orientation, ça a pu être déterminant pour certains qui ont pu vous quitter. Finalement, comment se fait la relation entre vous et votre petit personnel? Parce que c'est pas une très grosse équipe. type, ni l'un ni l'autre.
Alors, je n'ai pas de petit personnel, c'est pas un terme que j'utilise.
Non, en petite taille, si vous voulez.
Surtout qu'on est en cité coopérative au niveau du journal, donc ça veut dire que c'est une personne, une voix.
Oui. Je suis mal exprimé.
Ah non, j'en profite pour expliquer justement.
Petite équipe comparée au gros groupe dans lesquels vous avez vécu avant.
Alors, j'ai pour principe de proposer. C'est-à-dire que j'ai proposé quelque chose, ceux qui étaient d'accord adhéraient, ceux qui n'étaient pas d'accord adhéraient pas, et si la majorité n'était pas d'accord, je me retirais. C'était assez simple. Donc je n'impose rien à personne. Et quand on fait du recrutement, on explique ce qu'on fait, on explique ce qu'on porte, comment on veut fonctionner. Les gens prennent ou ne prennent pas, c'est leur choix. L'idée, c'est celle-là. En disant comme dans La Part de Rêve, la gouvernance partagée, c'est-à-dire de dire on écoute tout le monde. On essaie de décider en commun. S'il y a un problème, à un moment, il y a une personne qui tranche, c'est le responsable juridique. Bon, mais ça n'arrive jamais. Et si ça doit arriver, ça peut arriver. C'est une sécurité. Et ce mode de fonctionnement-là permet aux gens de comprendre où ils mettent les pieds et donc d'accepter ou de refuser de rentrer dans cette démarche-là.
Rémi, on va terminer là-dessus puisque nous sommes un peu, malheureusement, je le regrette, pris par le temps. Vous envisagez de créer d'autres écosystèmes en France, à l'étranger ?
C'est toute la démarche. J'étais à Madrid semaine dernière, j'étais à Nantes et à Paris avant l'été, je suis à Londres en décembre. L'idée, c'est de sentir, et j'avais des gens de Lyon hier, l'idée, c'est de sentir où ça se passe, où des choses se passent et à quel endroit il est possible d'aller porter ça. L'idée, c'est effectivement, si l'écosystème trouve un créneau fonctionnel, opérationnel, d'aller s'implanter partout dans le monde, si on peut, pour porter cette nouvelle-là un peu partout dans le monde.
Vous avez déjà 4 enfants, ça sera encore plein de petits bébés.
Tout à fait, merci.
Merci, on peut vous joindre facilement, vous avez une adresse, un site internet.
Oui, vous allez sur oecosystem.com, vous le trouvez, et moi je suis très accessible également, les gens peuvent me trouver assez facilement sur Facebook ou sur Twitter, sans aucun problème.
Merci beaucoup Rémi, merci à vous Jean-Marie Fehrenbach, merci à vous d'être toujours plus nombreux et nous écouter sur Radio Présence. À très bientôt.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.